l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission quotidienne de Radio Évasion, magazine avec de vrais morceaux de Finistère dedans, dans lequel on aime prendre un peu de recul. On ne se frotte pas trop à l'actualité brûlante, on regarde le monde posément. Et qui de plus indiqué pour un regard posé qu'un scientifique, qui plus est spécialiste de la planète mère, qui plus est doté d'une longue carrière et d'une belle expérience. Paul Tréguer est océanographe, c'est un peu comme géographe mais côté mer. Lui est même docteur en océanographie chimique. Il est désormais professeur émérite à la fac de Brest et il a même depuis peu lancé son blog. Car Paul Tréguer aime aussi s'adresser au grand public et pas seulement aux autres scientifiques. Il a même monté une école d'été, mer et journalisme, pour nous aider à mieux vulgariser les sciences de l'océan. Et sur ce blog, donc, il est question de repères et évolution du monde. C'est le nom du blog. Des voyages aussi, des magnifiques photos, de la poésie. Bonjour Paul Tréguer.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Ce blog, tout récent, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sa naissance ?
Oh, c'est très simple, c'était pendant la période du confinement. C'est un vieux projet en fait que j'ai pu réaliser à ce moment-là parce que ma fille, Isabelle, qui est graphiste, précisément manquait un peu de travail, si je peux dire, je lui en ai donné. Et voilà, le site web est au point, le blog est parti.
Qu'est-ce que vous vouliez faire ? C'était quoi l'idée que vous aviez derrière la tête ?
Ah, c'est vraiment, effectivement, c'est dans le titre, c'est-à-dire donner à toutes et à tous, et bien sûr en échange interactif, des repères pour suivre l'évolution du monde, depuis la fin du XXe siècle jusque bien sûr au début du XXIe siècle.
Enrichi avec votre expérience, bien sûr. Personnel, c'est quand même un blog très personnel.
C'est très personnel et ça part aussi bien sûr des rencontres que j'ai eues à peu près sur tous les continents.
Alors justement, on va dire qu'il y a quatre parties dans le blog. Il y a les réflexions, disons, philosophiques, air du temps. Il y a des chroniques de voyage, il y a des poèmes et il y a des contes polaires. On va commencer par l'air du temps parce que c'est peut-être la partie la plus riche. C'est justement celle où vous posez votre regard philosophique ou scientifique. Enfin, bon, en fait, c'est vous qui allez me dire. Quelle est votre posture quand vous écrivez ?
Eh bien, je suis un citoyen voyageur. Mais bien sûr qu'il ne peut pas oublier qu'il est aussi scientifique. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu dans cet esprit-là que j'écris. Comme j'écris dans un nouvel ouvrage qui s'appelle « Dans les pattes de géants ». Donc, par exemple, j'ai amplement visité les États-Unis et la Chine. J'ai vu leur évolution. Et en prenant un fil d'Ariane, qui est celui de l'histoire, j'essaie de comprendre les imaginaires des peuples à travers mes rencontres.
Vous avez aussi choisi donc des sujets assez variés pour l'instant. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça. Enfin, comment est-ce que vous choisissez vos sujets ?
Alors, c'est un peu, je dirais, dans mes réflexions personnelles, mais aussi au moment des opportunités d'actualité.
Ah oui, c'est quand même lié à l'actualité.
Ça peut l'être, pas nécessairement. Alors, dans le site Rebond, qui ouvre, dans la rubrique Rebond, qui ouvre le blog, en fait, eh bien, c'était juste pour dire qu'on entend beaucoup parler de collapsologie, des gens qui sont pessimistes sur l'avenir du monde. Je ne suis pas dans cette veine-là. Et je dis pourquoi, effectivement, je crois dans l'avenir du monde et dans l'avenir des hommes. Donc, c'est écrit pour cela. Dans celui qui s'appelle « Briser les chaînes », je revenais des États-Unis, juste au début de cette année-là, à San Diego, avec un monument dédié à San Diego, à Martin Luther King, sur la libération de l'esclavage. Et j'explique qu'en France aussi, on a eu ce problème, et on l'a toujours d'ailleurs, implicitement.
Alors, et ça, c'était juste avant, en plus, Black Lives Matter.
Avant le confinement.
Avant le confinement, et donc avant le mouvement Black Lives Matter.
Voilà. Alors, un autre thème, j'ai dû faire un peu en amateur des études d'économie aussi. Et j'avais envie de parler du bonheur, dans le sens, comment mesure-t-on le bonheur ? Alors, les économistes le mesurent avec le produit intérieur brut, qui est un peu, je dirais, limité. Et je me souviens du roi du Bhoutan, qui a inventé le concept de bonheur intérieur brut. Alors, plus sérieusement, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a identifié un certain nombre de critères pour juger du bonheur des peuples, dont le lien social. Alors, pour mémoire, la France, qui est le pays des éternels râleurs, ne ne se situe qu'à la 23e place. On peut faire mieux.
Ça, c'est des sondages qui ont été faits en fait, auprès des populations. C'est comme ça qu'il est mesuré
C'est vraiment mesuré très sérieusement en prenant la part de l'économie, du social, du politique, du tourisme, de la culture, etc. etc. Tout ça rentre dans cette façon dont l'ONU disons, range un peu les pays. Quoi.
Alors, le bonheur, la collapsologie, c'est plus effectivement des thématiques, on va dire, citoyennes.
Voilà.
Et puis, alors, il y en a qui vous touchent peut-être de plus près, par exemple, le plastique, les plastiques.
Alors, le plastique, pourquoi ? Parce que je suis, étant océanographe, si je peux dire, à la réception de tous les déchets de nos activités humaines. Et je me souviens que moi-même, j'étais ingénieur à l'époque, j'ai fait un stage dans une société et j'ai fabriqué du plastique, du téflon. Pour, vous savez, celui qui permet aux casseroles de ne pas coller. Là. Et donc, en fait, je suis, comme peut-être les plus anciens d'entre vous, de la génération Tupperware. Et maintenant, je suis passé, avec les jeunes du labo, dans la génération des sea cleaners, les nettoyeurs des mers. Il faut arrêter cette catastrophe là qui se prépare le plus rapidement possible. Et on peut le faire.
Enfin, qui se prépare et qui est déjà là, parce qu'en fait, il y a des particules de plastique, microplastique, partout, vraiment.
Et quand on mange des huîtres, eh bien, vous ne le savez sans doute pas, mais vous mangez des particules, des nanoparticules de plastique. Et donc, ceci, bien sûr, a un impact sur notre santé. Donc, il faut arrêter ça rapidement. Et on peut le faire, on saura le faire en l'espace de 20 ans, si il y a un accord au niveau international et s'il y a, de la part de chacun d'entre nous, une volonté d'y arriver, par exemple, pour les emballages.
Donc, c'est faisable, en fait. C'est ça aussi que vous... C'est ça, votre message. C'est que la tâche paraît parfois immense en ce qui concerne les thématiques environnementales. Mmh. Et pourtant, il y a vraiment moyen d'arriver à des résultats, même du vivant d'un homme, c'est ça ?
Alors, bien sûr, la perturbation est telle qu'il faut certainement une génération, quoi. Mais si je prends l'histoire du trou d'ozone,
voilà,
par exemple,
c'est à ça que je pensais.
On a bien montré qu'on sait le faire en l'espace d'une vingtaine d'années, avec bien sûr des accords internationaux. Hein. Alors, ils sont sûrement détournés, hein. Ils le sont en fait. Hein. Mais on a vu l'essentiel quand même, le résultat est là, c'est-à-dire on a réduit considérablement l'extension de ce trou d'ozone qui, encore une fois, permet l'arrivée des UV sur la planète Terre et sur les humains.
Quelles sont les autres thématiques environnementales que vous avez abordées ? Alors aujourd'hui, je crois que c'était justement là, c'était intéressant l'article d'aujourd'hui. On apprenait même des éléments sur l'histoire des énergies marines.
Voilà, c'est un peu dans la foulée de l'école d'été.
Exactement.
Que vous mentionniez tout à l'heure. Et en fait, quand j'étais un peu plus jeune avec des scientifiques, j'avais élaboré ce qu'on appelle le projet Alter Breton. C'était au moment de Plogoff. Où on faisait le pari suivant, sur une Bretagne à 5 départements, faire l'inventaire des besoins en énergie, pour une Bretagne moderne, bien sûr, quoi, et mettre en face ce que nous pouvions produire en électricité, en prenant uniquement en électricité ou en chaleur, enfin, ou autre forme d'énergie, en prenant uniquement les voies d'énergie renouvelable, quoi, dont notamment, pas seulement, bien sûr, les éoliennes. Quoi. Et on a vu, depuis cette époque-là, ça a été publié en 80 jusqu'à maintenant. On a vu les progrès absolument fantastiques. L'électricité éolienne, maintenant, n'est pas plus chère que les autres formes d'électricité. Quand on calcule bien, enfin, ça dépend comment on calcule, bien sûr. Et donc, ça se développe, ça s'est énormément développé en Europe. Et on voit des éoliennes en mer, soit posées, soit flottantes, qui permettent, vu leur grande dimension, de réduire considérablement leur nombre et donc l'impact sur l'environnement.
Et c'est pas plus polluant à produire, enfin c'est en termes d'énergie pour produire les éoliennes en mer, c'est intéressant, ça reste intéressant.
On n'a rien sans rien, c'est-à-dire qu'il faut faire un bilan carbone et d'autres pollutions de tout. Hein. Il y a certainement des inconvénients, mais ils sont nettement plus mineurs que les formes d'énergie carbonée, sans comparaison possible.
Et dans ce projet, à l'époque donc des années 80, enfin début des années 80, il y avait déjà l'idée de créer un réseau européen pour répartir l'énergie, enfin, en fonction des sources d'énergie, c'est ça ?
Alors, c'était uniquement un projet à l'échelle régionale. Donc, bien sûr, cette idée-là n'était pas encore, je dirais, active. Mais vu notre ouverture sur le monde, elle était implicite, oui.
Et l'idée, c'était presque de faire des smart grids, comme on dit avant la lettre.
Voilà, exactement. Oui,
ouais. Là où il y a du soleil, là où il y a du vent, à tel moment, on produit de l'énergie et on la distribue ensuite.
On la distribue, voilà, c'est ça.
Et alors, c'est... Là, ça montre bien que les scientifiques peuvent vraiment être visionnaires. Et pourtant, on a l'impression qu'ils ne sont pas toujours écoutés. Enfin, qu'est-ce que vous pensez du regard que porte la société sur la science et sur les scientifiques ? Ce n'est peut-être pas la même question.
Elle a toujours eu, la science, quelques difficultés à l'égard de la société. Mais on peut dire aussi que la société a toujours eu quelques difficultés avec la science. On peut le voir dans les deux sens, quoi. Mais les relations, depuis que la science existe et qu'elle s'est créée, on peut dire qu'on fait bon ménage, finalement. Quoi. Même s'il y a des périodes difficiles, comme peut-être maintenant, si l'on veut bien parler de science et non pas de pseudo-science, puisqu'on voit malheureusement actuellement des fake news, des fausses nouvelles, pour parler français, dans lesquelles on veut croire, même si les faits ne sont pas avérés. Mais là, le scientifique ne peut rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans le domaine de la foi et non plus dans le domaine de la science, chacun garde ses convictions, mais ce n'est pas ça qu'il faut évoluer le monde.
Mais comme le monde se complexifie, on a à la fois besoin de la science, mais en même temps, elle nous paraît de plus en plus difficile d'accès, non ?
Elle l'est et elle n'est pas. Par exemple, prenons l'affaire du climat.
Oui.
Maintenant, c'est tout dans toutes les têtes, sauf quelques-unes un peu résistantes, qu'il y a une évolution climatique en cours, et qui est accélérée du fait notamment de l'action humaine, de l'action enfin, à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois individuelle, mais aussi dans les industries, dans les voyages, dans les moyens de transport, etc., etc. Donc, on le sait, ça. On ne peut plus l'ignorer. Et donc, la différence, c'est que quand on ne sait pas, on ne peut rien faire. Quand on sait, on peut agir. Agir où ? Agir pour soi, agir dans des communes, agir dans les villes, agir dans la région, agir en France, agir en Europe, agir dans le monde. Et donc, il faut toucher tous les niveaux à la fois. C'est ça qui prend du temps. Mais si l'action est concertée, on peut, je dirais, limiter les dégâts.
Et quelles sont les bonnes voies pour faire passer la science dans le grand public ?
Alors, on a lancé depuis, je vais juste prendre un exemple, en 1998, enfin, quand j'ai pris la direction de l'Institut universitaire européen de la mer, j'ai lancé le réseau Écoflux. 12 rivières du Finistère, avec le support du Conseil général à l'époque, qu'on appelle le Conseil départemental maintenant, 12 rivières du Finistère dans lesquelles il y a un problème de nitrate. On connaît les impacts des nitrates, notamment pour les marées vertes, quoi. Ce sont des élèves des collèges agricoles, avec leurs professeurs tous les semaines, qui allaient prélever de l'eau dans un site déterminé à l'avance, par des méthodes déterminées à l'avance. Le flacon ramené était stocké au laboratoire vétérinaire de Quimper, hein, pour que les gens aient confiance dans les vecteurs agricoles, en quelque sorte, quoi. Et les élèves suivaient sur le site web l'évolution des concentrations. Et tous les ans, il y avait une rencontre avec les élèves, leurs professeurs, éventuellement les parents, qui étaient les bienvenus. C'était un moyen de sensibiliser à la science, je dirais, les personnes de tous les jours, en quelque sorte. Voilà un type de démarche. Autre type de démarche, c'est ce qu'on appelle la science participative. Quand vous circulez à la voile, quand vous naviguez à la voile, vous pouvez vous arranger avec un scientifique et faire l'observation. On vous demande, avec un certain protocole, d'observer la couleur de l'eau.
On donne du matériel parfois aussi.
On donne du matériel parfois, on prélève du plancton, on peut regarder les oiseaux, les compter. Et tout ceci permet effectivement de contribuer à la science en quelque sorte, quoi, et aux scientifiques bien sûr aussi de s'appuyer sur les citoyens.
Là, pendant la période récente et encore maintenant d'ailleurs autour du coronavirus, on voit la science se faire, on voit des controverses. Ça, vous pensez que c'est plutôt une bonne chose ou est-ce que ça peut brouiller le rapport entre les scientifiques et les citoyens ?
Alors, l'exemple est très bon dans le sens où on a affaire à une science de l'homme, la médecine, quoi, qui a ses contradictions et qui ne sait pas parfois. Et ce qui est difficile à comprendre pour les médias sûrement, et pour le citoyen aussi, c'est qu'un scientifique ne sait pas tout. Donc, un scientifique hésite, ça n'est pas forcément blanc ou noir, ça peut être gris. Et dans la démarche, on a appris, vous écoutiez récemment l'intervention de personnels de la santé au sens large qui sont impliqués pour soigner les personnes très affectées, par exemple en matière de respiration, par le fameux Covid, ou la Covid, dit-on plutôt. Eh bien, on voit bien qu'on fait des progrès, en fait, on apprend, quoi. La science apprend en permanence. Et c'est vrai que, eh bien, il faut sans doute que les citoyens comprennent que les scientifiques ne savent pas tout. Et on voit aussi maintenant que plus on sait, plus on est efficace. Je crois que c'est un domaine qui est particulièrement important dans la période où nous sommes. Il y a un autre domaine que je n'oublie pas, qui est l'environnement planétaire, qui, lui, ne doit pas être oublié, les impacts du changement climatique, et pour lequel les scientifiques ont fait des progrès énormes également. Quand nous étions, il y a 20 ans, on disait qu'il y a une forte probabilité pour que l'homme soit un acteur de la perturbation du climat. Maintenant, on peut dire qu'à 99%, c'est une certitude. Donc, on voit qu'en fait, la science évolue, s'appuie sur les hommes s'appuient sur la science. C'est une relation, comme je disais tout à l'heure, on fait bon ménage ensemble.
Oui, c'est ça. En fait, il faut que les citoyennes et citoyens comprennent que ce n'est pas des données fixes. La science, elle se fait en permanence, en fait.
C'est évolutif, oui.
Ce pas des idées tout arrêtées.
Voilà.
Souvent, on a envie d'avoir des idées tout arrêtées. Une façon de se former et de faire évoluer ses idées, c'est le voyage, qui est un gros morceau du blog Repères Évolution du Monde. Combien est-ce que vous avez compté le nombre de voyages que vous avez fait dans votre carrière?
Je n'ai pas compté. J'ai dû compter le nombre de campagnes océanographiques, 18, mais jamais les voyages. Les voyages, je le ferai peut-être, effectivement, me poser la question. Mais pour moi, voyager, c'est grandir, c'est la grande aventure, c'est ce qui laisse des traces dans l'âme, pour reprendre le mot de Marc Tiercelin, un navigateur. Le voyage, en fait, marque les individus, parce que ce sont des occasions de rencontre. Et le voyage, à l'échelle, bien sûr, de la planète, c'est une façon de réaliser la diversité du monde. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que l'homme ne saurait vivre dans un village gaulois, si passionnant soit-il. Bien sûr, on a tous besoin de se retrouver en famille, dans sa bande d'amis, dans sa communauté de vie, bien sûr. Mais on est enrichi par les échanges avec les autres. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, d'Homo sapiens et les prédécesseurs d'Homo sapiens, on voit bien qu'il y a eu toujours des interpénétration entre les communautés humaines. Moi, je pense que cette découverte de la diversité du monde est essentielle, l'apprentissage de la tolérance.
Mais alors, en ce moment, ce n'est pas une période excellente pour ça. Comment faire ?
Il y a quelques difficultés. Mais bon, je vais peut-être prendre un exemple. Je raconte mes voyages en Algérie.
Allez-y, parce que oui, il y en a. Là, pour l'instant, vous racontez donc sur le blog l'Algérie, Madère, le Maroc, le Canada, les États-Unis. Alors, allez-y,
voilà. Sur l'Algérie. Alors, sur l'Algérie, pour moi, c'est d'abord la rencontre avec une étudiante, mon étudiante en océanographie, qui s'appelle Léla, et dont le père a été tué par l'armée française.
Pendant la guerre d'Algérie.
Voilà, il était du FLN, il était tué par l'armée française. Donc, on peut imaginer le traumatisme de cette jeune femme. Mais elle n'avait pas l'esprit de revanche. Et son souci a été, sa motivation peut-être même, a été de faire découvrir son Algérie aux Français. Et j'en ai directement bénéficié.
Pour
changer le regard, quoi. Et ça a été inoubliable pour moi, la découverte du Sahara, du Garnaïa, avec Léla, la découverte des Aurès.
On est loin de l'océan, là.
On est loin de l'océan, exactement, quoi. Et donc, pourquoi c'est bien pour montrer que l'océanographie amène à tout.
La condition d'en sortir.
Voilà, l'Algérie, c'est Léla et tout ce qu'il y a derrière de la découverte des voyages, le Grand Sud. Alors, Madère, c'est un peu anecdotique, mais Madère a une signification particulière pour moi. Parce que c'est l'escale des navigateurs, des Espagnols, des Portugais, qui sont partis à la découverte, en principe, des Indes. En fait, c'était les Amériques. Et on voit dans quel esprit ils sont partis. J'ai navigué, en toute modestie, sur la reproduction de la Santa Catarina, qui est le navire de Christophe Colomb, 22 mètres à la voile. Et donc, je m'imagine, étant un marin de Christophe Colomb, voyageant très lentement par rapport aux normes actuelles.
Vous êtes allé là-bas, en Amérique?
Non, je ne suis pas allé jusqu'en Amérique.
D'accord. Mais, combien de temps
Non, c'était la journée.
D'accord. Mais sinon, aurait fallu combien de temps pour aller en Amérique?
Eh bien, il aurait fallu plusieurs mois.
Oui, d'accord. Mais ça relativise.
Ça relativise. Actuellement, quand on met plus de 6 jours pour traverser l'Atlantique, on considère que c'est long. Mais on est donc à une autre époque, dans un autre temps. Voilà. Alors, le Maroc, c'est au pied de l'Atlas. Alors, c'est très différent de l'Algérie, le Maroc. Au pied de l'Atlas. Et moi, je l'ai rencontré pour la première fois, si je peux dire, à Casablanca, ma première campagne océanographique en 72. Et j'ai vu son évolution. Et actuellement, l'enjeu du Maroc, c'est sa jeunesse. Une jeunesse très active, très ouverte sur le monde, avec le Maroc qui va jouer un rôle sans doute moteur dans, je dirais, l'ouverture de l'Afrique à l'Europe et au reste du monde, avec un savoir-faire qui est assez inoubliable. Je pense que le Maroc a beaucoup d'avenir devant lui, en tout cas la jeunesse du Maroc.
Et alors, outre-Atlantique, vous y êtes allé quand même pas sur la Santa Catarina, vous y êtes allé, le Canada et les États-Unis.
Alors le Canada, le Québec, j'en parlerai, il y aura sûrement une rubrique bientôt sur le Québec. Hein.
Ah oui, oui, s'il vous plaît.
Voilà. Mais le Canada, là, c'est la British Columbia qui est juste le long du Pacifique, hein. Des forêts immenses.
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Enfin, c'était pour
C'était juste un congrès, et puis bien sûr, j'en ai profité pour aller regarder autour. Avec un rêve de prendre, je n'ai pas encore fait, mais j'y retournerai, un hydravion. Parce qu'il y a, on dirait, en Bretagne, plein d'abers, en quelque sorte, plein de pénétration de la mer dans les terres, dans un milieu qui est encore un peu vierge, pas toujours, mais une bonne partie des forêts ont été largement préservées. Et vous voyez, ça permet de rêver, les trappeurs qui sont derrière, je ne sais pas.
Ah oui,
loin.
On s'y croit tout de suite. Ouais.
Alors les États-Unis, après. Alors ça, c'est vraiment le pays de mes rêves d'enfant. J'ai bien sûr joué à l'époque aux cow-boys et aux Indiens. Et j'ai appris à découvrir que l'Amérique de mon enfance a peut-être rien à voir avec celle que j'ai découverte après. Et je dirais que les États-Unis, c'est le pays du meilleur et du pire. Le meilleur, avec les paysages, la diversité des hommes, des femmes. Le pire, avec le côté apartheid, racial, inégalité énorme, quoi.
Voilà. Ah oui, ça c'est frappant.
C'est frappant.
Quel que soit l'endroit des États-Unis où
c'est
on
frappant.
Soit.
Une de mes découvertes, quand je suis arrivé, j'ai séjourné beaucoup dans l'Oregon, qui est sur la côte
justement.
Ouest, le long du Pacifique. Une de mes premières constatations, quand j'ai circulé dans les rues en séjour sabbatique, c'était de rencontrer des personnes âgées et édentées. Je me dis pourquoi ? Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de sécurité sociale comme chez nous, en quelque sorte. Quoi. Et donc, il y a des inégalités qui sont patentes. À l'inverse, eh bien, c'est le pays de la découverte de l'espace. C'est le pays aussi avec des engins dans l'océanographie extraordinaire. Vous voyez, donc, les deux choses sont vraies à la fois. Et je crois qu'il faut respecter sans doute l'originalité de chacun des pays, tout en étant conscient des voies. Enfin, il y en a une actuellement que l'on attend, bien sûr, à la suite de l'élection proche, le 3 novembre
du président
de la République. Mmh. Voilà, bon, je ne détaille pas là-dessus, mais on voit qu'en fait, c'est un pays qui a tendance actuellement à se refermer, ce que je regretterais profondément.
Et à se diviser même en son sein,
diviser,
beaucoup.
En son sein, ouais.
Et quand on pense aux États-Unis, justement, on peut se poser la question qui nous ramène à ce qu'on disait précédemment. Est-ce que finalement, le progrès scientifique est compatible avec la préservation de notre planète et de notre environnement? Parce que c'est vraiment un débat qui agite pratiquement tous les autres, je trouve.
Je pense, oui. En fait, le progrès scientifique va avec le progrès de l'environnement. Sinon, il n'y a pas de progrès scientifique, en fait. Et sinon, il n'y a pas de progrès pour la planète. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que la science en soi, elle peut induire des moyens un peu catastrophiques. Je parlerai des bombes thermonucléaires, etc. Mais il y a aussi des aspects positifs. On me l'accordera, quoi. Donc, en fait, derrière la science, il y a les hommes. Il ne faut pas les oublier.
Mais bon, les mauvais. alors, le blog aborde aussi des contes polaires du Nord et du Sud que vous avez écrit vous-même, hein, c'est ça? Pourquoi le pôle?
Parce que j'ai passé une grande partie de ma vie en Antarctique, en particulier. Et puis, j'ai des filles, j'ai des petites filles. J'avais à l'époque des petites filles. Quand je revenais de mes campagnes, je leur racontais des contes. Que j'ai mis un peu en forme là. Et je vous amène, je vous fais rêver, je vous fais rentrer un peu dans la mentalité de personnages célèbres comme Amundsen, Scott, Bird, De Gerlache, enfin, Charcot.
Oui, parce que ce sont des contes qui sont certes des fictions, mais c'est scientifique aussi avec des données historiques et scientifiques.
Voilà, je me base sur des faits au départ, ouais. Quoi, et après je brode un peu, ouais. Et ça permet de rêver avec eux. Quoi.
Et ça, vous en écrirez d'autres ou vous allez vous limiter à cela
bah, pour l'instant, j'en ai écrit 12, pourquoi pas.
Ouais, bah oui, nous, on ne demande pas mieux. Et puis, vous écrivez aussi des poèmes. Alors, sur le blog, il y en a une douzaine. Je suppose que vous en avez écrit d'autres, que vous en écrirez d'autres. Vous pouvez nous en lire un qui s'appelle L'homme confiné. C'est peut-être le plus récent.
Ah, effectivement, oui. Alors, j'en ai aussi un autre sur Barbara à Brest, une version moderne de Barbara. Voilà. Alors, l'homme confiné. Confiné entre quatre murs, le ciel est gris, calme est mon âme. Mais par un nuage pourtant s'est échappé un beau rayon de lumière. Et j'ai voulu revoir la mer, loin de Paris. Le bruit des vagues, un roulement, un bref instant, mon esprit volait dans les cieux. C'était hier. C'était étrange. Le monde courait sur les chemins, toutes et tous pensaient à demain, parcourant le champ du possible. Demain, je sais, le vent se lavera et tous ces miasmes chassera. Je partirai, je parcourrai le monde et je retrouverai mes amis ensemble.
Il y a un petit peu de Rimbaud là-dedans, non ? C'est un petit clin d'œil.
Je ne sais pas.
Vous étiez confiné où exactement ?
J'étais chez moi, mais dans des conditions, je dirais, enfin, très privilégiées, dans la mesure où j'ai un jardin.
Et vous étiez à Brest ?
À Brest, enfin,
oui. Vous n'étiez pas à Paris ?
Près de la nature, et ça fait beaucoup.
Paul Tréguer, on va vous remercier beaucoup. On rappelle le blog qu'on retrouvera de toute façon sur le site internet de Radio Évasion. Repère, évolution du monde. Et puis vous reviendrez sûrement à l'occasion quand vous aurez d'autres réflexions
très volontiers
à nous communiquer. Merci.
L'émission.